Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Il est rare d'entendre des personnalités parler de Dieu, de foi, de croyance, de religion. Notre invité le fait en toute liberté, sans tabou, sans honte, sans hypocrisie, en évoquant ses moments de grâce et de joie intense, mais en évoquant aussi ses doutes, ses critiques, ses reproches. Les bigoteries, les querelles de paroisse, le commerce religieux, tout cela l'exaspère. Et c'est cette liberté de ton et de pratique qui a attiré l'attention du Vatican et du pape François en personne. C'est même cela qui lui a permis d'écrire le Défi de Jérusalem, carnet de voyage très intime sur son expérience en Terre Sainte. Alors, tel que je vous le présente, vous croyez peut-être que notre invité est un homme d'église, mais non. Notre invité est écrivain, romancier, dramaturge, réalisateur, acteur. Ses livres se vendent par millions. Il est l'un des auteurs francophones les plus lus au monde, les plus traduits, les plus représentés. Il fait jouer les plus grandes stars dans ses pièces et ses films. Alain Delon, Michel Larocque, Catherine Fro et aujourd'hui Emmanuel et Mathilde Seigné. Comment fait-on pour passer d'un entretien avec le pape à une soirée people? Notre invité est-il un pont entre différents mondes? Entre le monde de l'art et celui de la spiritualité? Entre celui du showbiz et celui de la piété? Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans Un Monde, un Regard. Bienvenue à vous, Éric-Emmanuel Schmitt. Et merci d'avoir accepté notre invitation ici au Sénat, dans ce dôme tournant. Où êtes-vous le plus à l'aise, le plus à votre place? Dans la bibliothèque du Vatican avec le pape ou dans une soirée showbiz?
Oh, je crois que c'est dans ma chambre, à mon bureau. Parce que là, je peux me retirer du monde, le réinventer et l'offrir aux gens après à travers des histoires. En fait, je n'aime que le retrait. C'est toujours pour moi un effort d'aller dans le monde, même s'il y a des bonnes surprises dans ce monde et que je suis passionné par les êtres humains. Mais j'ai toujours besoin de ce recul, du retrait et puis de passer tout à travers le filtre de l'écriture.
Mais c'est vrai que votre position est particulière. Vous êtes une sorte d'électron libre entre... Vous survolez différents mondes sans les intégrer forcément.
Oui, je me souviens, j'avais mon prof de philo, quand j'étais en classe préparatoire, disait « Quand les hommes s'assemblent, leurs oreilles poussent. » Et effectivement, j'ai peur des milieux. Ah. Oui, parce que je trouve, qu'est-ce que c'est qu'un milieu? C'est un ensemble de préjugés partagés. Donc j'ai toujours cultivé ma différence, ma singularité, pas par narcissisme, mais presque par hygiène intellectuelle. Je ne veux pas partager des préjugés avec les gens. D'où cette liberté qui a été longtemps un obstacle et qui maintenant attire des gens extrêmement différents.
Vous, non seulement vous n'avez pas envie d'être enfermé dans un monde, mais vous ne voulez pas non plus être enfermé dans une époque. J'ai envie d'être toutes les époques, avez-vous dit. C'est cela qui vous a fait vous lancer dans le chantier titanesque qu'est la traversée des temps, un cycle romanesque qui retrace l'histoire de l'humanité en 8 tomes. Vous vouliez raconter plusieurs époques, plusieurs sociétés. J'ai quand même envie de vous demander s'il y a une époque qui vous plaît plus, dans laquelle vous auriez aimé vivre.
Oh, je crois qu'il y a deux époques que j'adore et je vais bientôt les aborder dans mon grand cycle romanesque. C'est la Grèce au 4e siècle avant Jésus-Christ, l'invention du théâtre, de la philosophie, de la démocratie. Donc c'est un moment, c'est un saut intellectuel extraordinaire. Et puis il y a le 18e siècle. Le siècle des Lumières, et pourtant je suis croyant, mais le siècle des Lumières parce que c'est la liberté singulière de penser par soi-même, c'est le savoir partagé, C'est le statut de, élevé de chacun, l'accès à la connaissance. Donc, c'est deux siècles dont j'adore les grands mouvements.
Et notre époque, elle vous plaît, notre époque actuelle ?
Alors, mon époque, elle me plaît, oui, parce qu'elle est, elle est infiniment riche. Et puis, je pense qu'on vit une époque de bascule avec l'arrivée du numérique, bien sûr, de l'intelligence artificielle, d'une communication facile. Enfin, la Terre n'a jamais été aussi petite. Mmh. Elle est minuscule maintenant. Mmh. Et donc, c'est assez vertigineux d'assister à ça et de vivre ce moment-là.
Tout de même, vous avez fait le choix d'être, je vous cite, le scribe de la joie. Et vous dites, oui. Malheureusement, notre époque ne valorise pas ma démarche. Contrairement à l'accablement qui a pignon sur rue, on ne prend pas la joie au sérieux. Est-ce que nous vivons dans une époque qui se complaît un peu dans la sinistrose ?
Complètement, particulièrement en France, je crois. Oui, on a l'air intelligent quand on est pessimiste. Alors, le pessimisme, c'est pas plus intelligent que l'optimisme, c'est juste une position, quoi. Et puis, vous savez, quand on entend les critiques parler de livres, on aime la noirceur de quelque chose. Oui, on pourrait aimer le rosé aussi de quelque chose, ou la blancheur de quelque chose. Ben, bref, c'est chaque époque a ses préjugés partagés, a ses conneries, quoi. Et la nôtre, elle est comme les autres, mais ouais. Ce qu'il y a, c'est qu'évidemment, quand on est immergé dedans, on les voit pas. C'est tout l'intérêt d'avoir une formation philosophique. Moi, je conseille ça à absolument tout le monde. Je veux dire, apprendre la philosophie, ou plutôt acquérir les outils philosophiques, c'est une manière de pouvoir penser par soi-même, de se dégager des influences, des préjugés, du prêt-à-penser, du pré-penser, etc. Mmh. Et ça me paraît essentiel. On devrait enseigner qu'une chose dans les lycées, la philosophie.
L'amour de la sagesse.
Ouais.
Vous avez la foi, vous l'avez dit, et vous la partagez cette foi. Vous évoquez publiquement et vous écrivez vos expériences mystiques depuis de nombreuses années. Il y a eu la rencontre avec Dieu dans le désert du Sahara, quand vous étiez jeune agrégé de philo. Vous l'avez raconté dans La Nuit du Feu. Et puis, il y a eu l'église du Saint-Sépulcre dans la vieille ville de Jérusalem. Expérience presque charnelle avec le Christ, oui. Tel que vous décrivez les choses. Vous en êtes revenu avec ce livre, Le Défi de Jérusalem. Première expérience très seule, en plein désert. L'autre expérience dans une foule étouffante. L'une vous a fait croire en Dieu alors que vous étiez athée. Et l'autre a renforcé votre foi. C'est en ça que ces deux étapes ont été marquantes dans votre vie.
Oui, totalement. Mais je crois que beaucoup d'entre nous reçoivent des éblouissements, des révélations, mais les mettent dans leur poche parce que c'est gênant, parce qu'il faudrait tout repenser à partir de là, parce qu'une révélation, c'est une révolution. Donc je crois que beaucoup de gens vivent des phénomènes, entre guillemets, étranges, mais décident de s'en débarrasser, d'autant plus dans notre époque qui est totalement matérialiste et qui a des explications matérialistes, chimiques, biologiques, psychanalytiques, pour tout. Donc oui, moi j'ai vécu deux grands moments. En 1989, je suis rentré dans le désert du Sahara athée et j'en suis ressorti croyant parce que je me suis perdu. Mais dans tous les sens du terme, perdu physiquement, mais aussi j'ai perdu l'être que j'étais. Peut-être que j'ai eu peur et que certaines choses peuvent arriver quand on ne domine plus, quand on n'est plus dans l'idéal du contrôle. Et moi, j'étais totalement dans cet idéal du contrôle. Mmh. Donc ça, c'était la découverte d'une nuit mystique, la découverte de Dieu. Du Dieu, pour moi, de toutes les religions, en tout cas des trois monothéismes. Et puis, effectivement, ça a développé chez moi un intérêt pour les religions, toutes. Je me suis mis à énormément lire les textes des grandes religions du monde, les grands poètes mystiques ou poétesses mystiques. Et puis, un jour, j'ai lu les quatre évangiles que je n'avais jamais lus. À la suite, une nuit, c'est court. Et j'ai été bouleversé par cette histoire, bouleversé par la mise en avant de l'amour. L'amour qui doit remplacer toutes les autres relations humaines, qui sont généralement le calcul, l'intérêt ou la peur. Tout d'un coup, à la place de tout ça, mettez l'amour. Impossible, fou. Et c'est pour ça que ça m'a séduit. Et donc j'ai développé une réflexion sur le christianisme, avec aussi une enquête historique, philosophique, critique. Et puis, voilà, je me considérais comme chrétien. Et quand je suis parti à Jérusalem, ce christianisme d'intellectuel est devenu charnel. Oui. Parce que j'ai vécu au Saint-Sépulcre vraiment une expérience de présence qui est perçue par mes sens, qui a comme complété ce christianisme intellectuel.
Évidemment, c'est troublant quand vous racontez cela. Et moi, j'ai eu cette réflexion, vous qui avez écrit sur Freud, fondateur de la psychanalyse, à aucun moment vous vous dites que votre cerveau a pu créer ces sensations, ne serait-ce que pour ne pas être décevant vis-à-vis du pape et du Vatican qui vous avaient demandé de faire ce voyage. Ah bah vous connaissez les rouages de la psychanalyse.
Mais je connais les rouages des explications matérialistes, je suis agrégé de philo, donc j'étais même payé pour fournir ce genre d'explication. Non, l'expérience résiste à ces types d'interprétations qui l'aplatissent. D'abord, tout simplement, je n'avais pas imaginé qu'une telle chose puisse arriver. Donc, je ne l'attendais même pas. Ensuite, je n'étais pas du tout dans un degré d'insatisfaction tel qu'il fallait absolument que quelque chose m'arrive. Ensuite, au Vatican, j'avais dit « j'accepte le voyage, mais je n'accepte pas le livre. Je ferai un livre que s'il se passe quelque chose. Non, c'est l'irruption de quelque chose dans le réel, d'inattendu, d'exceptionnel, d'unique, qui avait ça. Et ma foi n'est qu'un consentement à la réalité.
C'est l'acceptation de ce qui se passe,
l'acceptation de ce qui s'est passé et d'en tenir compte.
La religion, la foi, les croyances sont des sujets qui sont devenus très sensibles dans notre époque, très polémiques, des sujets qui font peur aux sociétés modernes, qui sont presque tabous. Et vous avez dit un jour, les gens ignorent de plus en plus la Bible. Qu'on la dédaigne religieusement ou spirituellement, c'est la liberté de chacun. Mais on ne peut pas la dédaigner culturellement, on est fait de ça.
Bien sûr.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Moi, je crois que le salut passe par la connaissance. Il faut connaître l'histoire des religions, il faut connaître les religions des autres. Moi, j'ai écrit sur des religions qui ne sont pas les miennes, des textes qui ont fait le tour du monde, comme Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, etc. Mais avec un immense respect. En fait, ce qui manque, c'est peut-être le respect pour considérer ces objets. Ces objets sont devenus des lieux de dissension, d'opposition, de guerre ou de rejet. Je crois que non, il faut développer son attention à tout dans le monde, aux êtres, mais aussi à ce qui fait vibrer le cœur des êtres, aux valeurs qui commandent leurs gestes.
Donc vous conseillez à tous les croyants et non-croyants d'aller lire l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Coran ?
Bien sûr. D'abord parce que c'est passionnant. Et puis c'est un texte qui continue à s'écrire, la Bible, parce que c'est suffisamment imparfait, voire parfois obscur, et très souvent contradictoire, pour que votre esprit s'exerce. C'est-à-dire qu'en fait, la vraie éducation religieuse est une éducation critique, exactement comme on lit un texte de philosophie. Vous êtes obligé d'interpréter.
Et de questionner.
Et de questionner. D'interroger. Quand vous lisez les quatre évangiles, votre lecture en constitue un cinquième. Vous n'y échappez pas. Autrement, c'est que vous êtes passif et que vous êtes abruti. Donc, véritablement, moi, ce qu'il faut enlever, c'est cette séparation de l'esprit philosophique et de l'esprit religieux. Moi qui suis un homme passionné par le XVIIIe siècle et qui a écrit ma thèse sur Diderot, je crois au contraire qu'il faut prendre l'esprit philosophique pour considérer le fait religieux, mais pas pour le supprimer.
C'est surprenant tout ce que vous dites parce que vous venez d'une famille athée. Et cette enfance, vous la passez à Sainte-Foy-lès-Lyon, je le prononce bien, dans la métropole lyonnaise. Vous observez la ville et la vie depuis le balcon de vos parents. Oui. Vous dites « le monde m'était donné comme un spectacle ». Et vous avez d'ailleurs pris l'habitude d'écrire en hauteur. « J'écris toujours au dernier étage de ma maison », dites-vous. Pourquoi ? Ça vous aide à prendre de la distance, à surplomber un peu le monde ?
Je suis un oiseau écrivain. Il faut que je sois à la campagne, j'écris dans le donjon, à Bruxelles, j'écris au dernier étage. Oui, j'ai besoin d'être entouré de silence et d'être dans une page blanche. Et la distance, c'est la distance philosophique, bien sûr, que finalement le balcon de mon enfance m'offrait, puisque j'avais Lyon et les monts du Lyonnais devant moi. Et puis c'est la distance du spectacle aussi, parce que je suis un jouisseur et que le monde me passionne. Donc j'ai gardé de cette enfance cette idée d'être en hauteur et de voir les choses de haut.
À la lueur de celui que vous êtes aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous au petit garçon que vous étiez ? Qu'est-ce que vous lui diriez avant qu'il ne se lance dans la vie ?
Qu'il avait raison.
De ?
Mais je crois qu'une vie réussie, c'est des rêves d'enfant accomplis. Et donc, l'enfant que j'étais rêvait de voyager, de parcourir le monde, rêvait d'écrire des histoires qui pourraient passionner les gens. Et je l'ai fait. J'ai dit, le petit garçon avait raison. J'ai prêté mes moyens d'adulte, mon instruction d'adulte au petit garçon que j'étais.
Parmi les figures très importantes de votre enfance, il y a votre grand-père, le roi de mes premières années, dites-vous. Artisan, joaillier, sertisseur, il m'a transmis son regard attentif sur le monde, l'attachement au travail. Et vous avez une anecdote absolument magnifique sur lui. Il récoltait tous les soirs, très soigneusement, la poussière d'or qui était restée sur son tablier. Lorsqu'il est mort, à l'âge de 66 ans, il avait réussi à couler 6 lingots d'or grâce à cette poussière, ce qui a permis à son épouse, votre grand-mère, de vivre plus confortablement que si elle n'avait dû vivre qu'avec sa retraite d'artisan. L'histoire est sublime. Qu'est-ce qu'elle dit de lui? Qu'est-ce qu'elle dit de vous? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté?
C'est mon modèle. C'est un homme assis. Lui, il était assis à son atelier, qui essaye de faire le mieux possible. Lui, des bijoux, moi, des textes. Et avec la vertu de la patience. Moi, la patience n'était pas dans mes données de caractère au départ. C'est quelque chose que j'ai appris. Et puis la passion de la patience, puisque finalement, il n'y a que la passion qui donne la patience. Et puis cette idée qu'effectivement, cette poussière d'or, c'était rien du tout. Moi, chaque soir, je me moquais de lui. Je disais, mais grand-père, il n'y a rien. Il me disait, tu verras. Et effectivement, ça a sauvé ma grand-mère à sa mort. Elle a pu vivre de ça. Et c'est donc aussi, moi, j'ai comme l'idée que je fais de la poussière d'or aussi pour les gens que j'aime.
Vous trouvez insupportable le regard qu'on porte aujourd'hui sur la vieillesse, sur les personnes âgées, vous qui avez eu un tel amour et un tel respect pour vos anciens, vous trouvez que notre société malmène les anciens?
Clairement, oui. Il vaut mieux être un vieillard au Moyen-Orient qu'en Europe. Parce que les vieilles personnes restent intégrées dans la famille. Ce qu'on a fait, nous, pendant des siècles et qu'on ne fait plus. Aujourd'hui, on construit des endroits pour se débarrasser des vieilles personnes. On marche sur la tête. Je ne comprends pas. Et puis c'est marchand derrière. Derrière, il y a une société marchande. Ils ne sont plus utiles à la société, ils ne produisent plus. Allez, hop. On attend juste de s'en débarrasser. Alors que c'est... chaque âge a des vertus qui sont utiles pour les autres âges. Je veux dire, quand on a eu la chance, enfant, d'avoir un grand-père qui me faisait aimer les animaux, qui me faisait découvrir les plantes, qui allait pêcher au bord du Rhône. Moi, je m'ennuyais comme un rat mort. Mais en fait, non. Parce que je rêvais et je consacrais des heures à la rêverie. C'est essentiel dans ma vie, la rêverie. C'est mon pétrole, la rêverie. Voyez. Chaque âge peut apporter quelque chose aux autres.
Mais vous allez même plus loin, vous dites vieillir, ce n'est pas se racornir, c'est grandir.
C'est-à-dire qu'en plus, moi, j'ai vu dans ma propre vie des choses s'améliorer en vieillissant. D'abord, je suis plus tolérant en vieillissant qu'à 20 ans. Oui, j'avais des certitudes qui me rendaient intolérant. Et puis aussi, je travaille beaucoup plus facilement et mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus productif. Je ne perds pas mon temps, je me connais, j'évite les pièges, etc. etc. Donc, on gagne des choses. On s'essouffle un peu plus, mais intellectuellement, c'est beaucoup mieux.
J'ai un document à vous proposer, Éric-Emmanuel Schmitt. Il s'agit d'un document proposé par les Archives nationales, qui sont nos partenaires dans cette émission. Il s'agit d'une fiche des services de renseignement français sur un certain Adolf Hitler, rédigée en 1924, quand Hitler est en prison pour trouble à l'ordre public. Il y est écrit Adolf Jacob Hitler. Première erreur, Jacob n'était pas son deuxième prénom et cela pouvait laisser croire qu'il avait des origines juives, rumeur de l'époque, démentie par les historiens depuis. Plusieurs autres erreurs apparaissent sur sa date et son lieu de naissance. Et puis aux données objectives s'ajoutent des commentaires intéressants. Le Mussolini allemand, est-il écrit, n'est pas un imbécile mais un très adroit démagogue. Il y est question de sa tentative de coup d'État le 8 novembre 1923 contre le gouvernement bavarois qui aurait, je cite, échoué lamentablement, selon l'agent qui rédige cette fiche. Et enfin, toujours, selon cet agent, Hitler ne serait que l'instrument de puissance supérieure. À l'époque, beaucoup pensaient que Hitler était la marionnette du général Ludendorff. L'histoire a montré qu'il avait été très loin d'être un pantin. Je m'adresse à celui qui s'est lancé dans la réécriture romancée de la vie d'Hitler, dans La part de l'autre, c'est ce livre. Que vous inspire ce document truffé d'erreurs?
Ce que ça m'inspire, c'est que ce soit un officier comme ça de renseignement ou même des romanciers ou des historiens, toujours Hitler, c'est l'autre. Toujours Hitler, c'est celui qui n'est pas comme nous. Mm. Or, moi, j'ai écrit La part de l'autre pour montrer que Hitler, c'est nous si. Mm. Hitler, c'est moi si je préfère un bouc émissaire à l'analyse de la complexité des causes. Mm. C'est moi si je crois que j'ai toujours raison, etc. etc. Mm. Donc, quand j'ai écrit La part de l'autre, j'ai écrit un double roman, effectivement. D'un côté, la vie du vrai Hitler qui rate l'Académie des Beaux-Arts en 1909 à Vienne. Et chapitre suivant, l'histoire de Adolf H., reçu au ras des fesses à l'Académie des Beaux-Arts.
Quand même.
Voilà. Mais qui va, lui, se développer sur l'épanouissement et non pas sur la frustration, le manque et une théorie pour interpréter son échec. Mmh. Et du coup, je raconte deux 20e siècles, le 20e siècle avec Adolf Hitler, malheureusement, et peut-être le 20e siècle sans Adolf Hitler, en faisant de la géopolitique fiction. Mmh. Donc, c'est à la fois un roman historique et une uchronie. Moi, ça m'a passionné d'écrire ce livre, mais ça m'a aussi alerté et inquiété. Ouais. Je me suis dit que c'était très facile de devenir nazi et aussi très facile de devenir Hitler. Il suffit d'être en refus de la complexité du monde et à la recherche de solutions simples. Et dès que je vois quelqu'un brandir des solutions simples, je m'inquiète.
Vous pensez à qui ? À quoi ?
Il y a beaucoup de politiques qui nous apportent des solutions simples et nous disent « c'est très simple ». Et qui sont dans une idéologie du bouc émissaire. Mmh. À partir du moment où on est là, à mon avis, on ne pense plus. Mmh. Et on est dangereux.
Ça veut dire aussi que les drames de l'histoire peuvent se jouer à un rien, à un petit accident, comme celui de ce refus dont vous parlez.
Mais bien sûr. Et puis vous savez, la grande question des historiens, c'est est-ce l'histoire qui fait les hommes ou les hommes qui font l'histoire ? Je trouve que Hitler est un cas qui nous montre que parfois ce sont les individus qui font l'histoire, au sens où il y a une dimension. Il y aurait eu de toute façon dans l'Allemagne des années 30 un gouvernement de droite. Du droit autoritaire et solide et dur, à cause de cette stupidité qu'était le traité de Versailles. Mais la composante antisémite, c'est la marque hitlérienne. Et vous voyez, cette obsession individuelle de cet homme, cette maladie qu'il a transmise à l'Allemagne, elle a quand même conduit à une guerre avec 52 millions de morts.
J'ai des photos à vous présenter, Éric-Emmanuel Schmitt, ça fait partie des rituels de cette émission. La première photo, la voici. C'est une photo de classe en Suède avec des élèves travaillant sur des écrans. Après 15 ans de numérique et de tablettes, le pays revient au bon vieux manuel scolaire. Une étude a montré que le niveau des jeunes Suédois avait baissé, notamment en lecture et en compréhension écrite. Vous qui préférez le stylo au clavier, je vous ai entendu le dire, vous qui écrivez des livres, ça vous réjouit que l'on tire des enseignements et que l'on revienne au papier et au bon vieux bouquin ?
Moi, je n'ai pas de théorie à l'avance là-dessus. C'est bien si l'expérience montre qu'il faut en partie éviter l'écran. Moi, j'avoue que je suis client des deux. Hein. J'écris à la main, mais j'écris aussi sur l'écran. Ouais. Et je ne suis pas du tout mauvais dans le maniement de ces instruments-là. mais j'ai remarqué une chose, c'est que quand, par exemple, je lis un livre sur écran ou quand je le lis à la main, je ne le retiens pas de la même façon. Un livre que je lis sur du papier, je le retiens pour toute ma vie. Ce que je lis sur écran, une semaine après, je l'ai oublié. Donc, il se passe quelque chose, alors un neurologue pourrait m'expliquer, qui fait que mon acuité mnémique n'est pas la même. Mais seules les études objectives peuvent nous apprendre quelque chose là-dessus. Moi, je ne suis pas fétichiste.
Quel est votre rapport au numérique, aux réseaux sociaux ?
Alors, aux réseaux sociaux, zéro.
J'ai
quelqu'un, j'ai quelqu'un qui s'en occupe pour moi, parce que je ne veux pas savoir, mais en même temps, je sais que c'est utile.
Qu'est-ce que vous ne voulez pas savoir ? Les commentaires désobligeants, les critiques, les choses désagréables ?
C'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'était fait pour communiquer, pour faire tomber les murs, et ça en a dressé je ne sais combien. Les gens sont dans des communautés où ils pensent tous la même chose et ils ne vont jamais à côté dans une autre communauté. Donc, en fait, on a construit des murs et des murs et des murs. Moi, je préfère les ponts aux murs.
C'est intéressant, c'est ce que je disais en début d'émission. Une deuxième photo, vous allez probablement le reconnaître. Il s'agit de Matteo Zuppi, cardinal italien, qui a pour mission de négocier la paix en Ukraine, envoyé par le pape à Moscou et à Kiev. Selon vous, la paix peut arriver par des hommes d'église et des hommes de foi ?
Alors moi, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Effectivement, je pense que la religion n'est pas à jeter comme un facteur de désordre dans le monde, les religions, mais comme plutôt des moyens d'accéder à la paix. D'abord, au cœur de chaque religion, il y a la même chose. Le désir de lutter contre l'égoïsme, de développer la générosité individuelle, de se raccorder avec les autres. Dans toutes les religions, il y a ça. Ensuite, si les religions sont conscientes qu'au fond, elles ont le même cœur, je pense qu'elles peuvent créer des points d'entente. Et pour moi, Jérusalem, c'est pour ça que j'ai écrit le défi de Jérusalem, est vraiment le lieu qui, sur Terre, dit ça. C'est d'abord un lieu où Dieu a dit « Écoutez-moi ». Puisqu'il a créé le premier monothéisme, le judaïsme, le deuxième, l'accomplissement du christianisme de Jésus se fait là, et le troisième, puisque il y a le rocher d'Abraham, Mahomet est venu en songe, et puis est parti au ciel depuis là, dans la tradition musulmane. Donc, mais le problème, c'est qu'après avoir parlé là en disant « Écoutez-moi », je pense que maintenant, il tient un autre discours. Il dit « Entendez-vous ». Et je crois que l'entente... elle peut venir des religions dans la mesure où les religions doivent se rendre compte qu'elles sont, elles ont le même père.
Les religions ou les hommes ?
Les hommes, les religions ont la même origine. Je veux dire, c'est trois manières de dire la même chose. Je pense que les religions devraient appel à, sont en elles-mêmes, si elles ont la mémoire de ce qu'elles sont, un appel à la fraternité plutôt qu'au fratricide. Le fratricide, c'est l'oubli de l'origine. Les frères sont fratricides quand ils oublient le père ou la mère, quand ils oublient qu'ils sont issus d'une origine commune. On passe du fratricide à la fraternité quand on se rend compte qu'on n'est pas à l'origine de sa propre histoire, mais qu'on est la suite d'une autre histoire et qu'on doit inclure l'autre dans la cohésion totale de cette histoire. Donc je crois qu'en fait, par le religieux, si le religieux développe la conscience de son historicité et de sa proximité avec d'autres religions, oui, on peut trouver des portes.
J'ai une dernière question, Éric-Emmanuel Schmitt, qui est en lien avec le lieu dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous sommes entourés de quatre statues qui représentent chacune une vertu. La sagesse, la prudence, la justice et l'éloquence. Laquelle de ces vertus vous caractérise le plus, vous plaît le plus, celle dont vous avez envie de parler ?
Non, celle dont j'ai besoin, c'est la sagesse. Je suis philosophe de formation... philosophie, ça veut dire amour, la sagesse. Et je pense que dans la sagesse, il y a toutes les autres vertus qui sont représentées par les autres statues. Pour moi, c'est essentiel. Ce n'est pas forcément la recherche du vrai, parce que le vrai est parfois inaccessible. C'est la recherche d'un monde vivable pour nous tous, avec une certaine harmonie.
Et ce sera le mot de la fin. Merci, merci infiniment Éric-Emmanuel Schmitt d'avoir été avec nous dans Un monde, un regard, de nous avoir apporté votre monde et votre regard. Merci beaucoup et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. À très très vite sur Public Sénat. Merci.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com